Bonjour Victoria, bienvenue dans cette édition du débrief pour les mardis 25 juillet et mercredi 26 juillet. Alexis Gagnon en votre compagnie pour la prochaine heure. Votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM CILS va débuter incessamment sous peu. À tout seigneur, tout honneur, c'est le monde, la planète que nous examinons d'abord avec la revue de presse internationale dans un instant. Bonne émission à tous. Et je mentionne au passage que nous recevrons dans la seconde partie de l'émission un couple qui est derrière une initiative pan-canadienne associée au 150e anniversaire de la Fédération. Ça s'appelle 150 regards. C'est une série de portraits de Canadiens engagés dans leur communauté que nous propose ce couple. Il s'agit de Guylaine Laronde et de Stéphane Lemire, deux Sherbrookois qui font le tour du Canada avec ce projet intitulé 150regards.ca. Vous aurez ça dans la seconde partie de l'émission. Et nous débutons tout de suite dans le fil de l'agence Reuters. Donald Trump attaque de nouveau Jeff Sessions qui se retrouve sur la sellette. C'est daté du 25 juillet. Donald Trump a continué mardi 25 juillet à s'en prendre à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, lui reprochant de ne pas enquêter sur sa rivale démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, et soulevant, sans donner de preuves, des questions sur le rôle de l'Ukraine dans la campagne électorale américaine de 2016. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters. En France maintenant, et c'est une nouvelle qu'on aperçoit sur le portail de RFI, Radio France Internationale, une trentaine d'adhérents d'En Marche portent plainte contre le parti. En Marche, c'est le parti du président Emmanuel Macron. Créer un parti de toutes pièces n'est pas chose aisée et cela peut provoquer des situations plutôt rares, peut-on lire dans cet article coécrit par RFI et l'agence France Presse. Le mouvement politique du président français a vu une trentaine de ses propres militants le poursuivre en justice. En cause, le vote des nouveaux statuts qui a lieu jusqu'au 30 juillet. Certains adhérents mécontents de La République En Marche, c'est le nom du parti, ne jugent pas tout cela assez démocratique à leurs yeux. La colère monte depuis le 8 juillet, peut-on lire dans cet article, jour où les adhérents du mouvement présidentiel français La République En Marche, LREM, se sont réunis pour définir leur nouveau statut, c'est-à-dire les règles qui vont structurer le fonctionnement de leur parti. Alors, ça peut être considéré comme une nouvelle insolite, mais ça montre quand même que la façade d'En Marche présente quelques fissures. Vous trouverez ça dans le portail RFI à l'adresse rfi.fr. Et toujours à propos de Macron, justement, le journal Libération nous informe qu'il accueille les frères ennemis libyens. C'est un article signé par Céliane Massé en date du 25 juillet. Le président français a invité au château de la Selle Saint-Cloud le premier ministre libyen Fayez El-Sarraj et le général Haftar qui a pris le contrôle de l'est du pays. Pour la première fois, la rencontre pourrait déboucher sur une déclaration conjointe. Après la rencontre avortée du Caire en février dernier, peut-on lire dans cet article de Libération, après l'opération photo d'Abu Dhabi en mai, les deux hommes qui ont entré les mains, une partie du destin de la Libye vont-ils enfin signer un document commun? C'est la question que pose cet article. Le premier ministre du gouvernement d'Union nationale et président du conseil présidentiel, Fayez El-Sarraj, et le général Khalifa Haftar, à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne, doivent se rencontrer ce mardi sur le sol français. Emmanuel Macron a invité les deux rivaux au château de La Selle Saint-Cloud, dans les Yvelines, propriété du ministère des Affaires étrangères. Le timing est bon, estime-t-on à l'Élysée. C'était le moment opportun pour déclencher une rencontre. Le nouvel envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, prend ses fonctions cette semaine. Nous voulons placer sa mission sous les meilleurs auspices. Voilà donc la déclaration officielle du gouvernement français à l'approche de cette rencontre entre les deux frères ennemis libyens, comme les appelle la journaliste Céliane Massé dans ce papier publié sur le site libération.fr. Nous allons maintenant nous transporter dans les colonnes de Ouest-France à l'adresse ouest-france.fr. Un navire américain tire des coups de semonce contre un vaisseau iranien. Selon un responsable américain, un navire américain a effectué plusieurs coups de semonce face à un vaisseau iranien qui s'était approché trop près ce mardi 25 juillet. Un patrouilleur de la marine américaine a tiré mardi 25 juillet des coups de semonce contre un vaisseau iranien du corps des gardiens de la révolution islamique après que ce dernier se soit approché à moins de 140 mètres, a indiqué un responsable américain de la défense. Le bateau de la marine iranienne s'approchait à grande vitesse. Il ne répondait pas aux signaux ou aux appels. Le patrouilleur n'a pas eu d'autre choix que de tirer des coups de semonce, a précisé un responsable sous couvert d'anonymat. L'incident a eu lieu dans le golfe Persique, précise cet article de Ouest-France. Et toujours dans le golfe Persique, de l'autre côté du golfe, cette fois du côté du Qatar, la médiation d'Erdogan s'achève sans résultat. C'est la manchette de Ouest-France à propos de cette crise qui oppose la minuscule principauté du Qatar, ou plutôt l'émirat du Qatar, à ses alliés traditionnels, notamment l'Arabie Saoudite. Le président turc Erdogan, peut-on lire dans cet article, a quitté le Qatar lundi au terme d'une mission de médiation qui n'a manifestement pas permis de désamorcer la crise entre l'émirat et ses voisins du Golfe. Après avoir rompu le 5 juin leur relation avec Doha, la capitale du Qatar, qui est accusée de soutenir des organisations terroristes et de se rapprocher de l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont formulé une série d'exigences. Ils réclament notamment la fermeture d'une base turque dans cet émirat du Qatar, le démantèlement de la chaîne de télévision Al Jazeera, une prise de distance avec l'Iran et la rupture des liens avec des organisations jugées terroristes, entre guillemets. Le Qatar a estimé que ces exigences n'étaient ni raisonnables ni applicables, ce que le président turc a approuvé. Donc voilà, c'est le statu quo, aucune solution en vue dans cette crise qui oppose le Qatar à ses alliés traditionnels du golfe Persique, à commencer par l'Arabie Saoudite. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Ouest-France. On va revenir sur Libération.fr un instant pour cette nouvelle qui concerne Israël. Israël s'enfonce dans la crise des portiques. C'est signé par le correspondant de Libération à Tel Aviv, Nissim Behar. Benjamin Netanyahou, écrit-il, ne sait plus où donner de la tête car la tension provoquée par l'installation de portails magnétiques devant les entrées de l'esplanade des mosquées de Jérusalem ne retombe pas. Les manifestations palestiniennes succèdent aux manifestations israéliennes et les tentatives d'attentats se multiplient en Israël comme dans les territoires palestiniens. C'est dans ce contexte particulièrement lourd qu'une autre crise a éclaté dimanche soir en Jordanie après qu'un jeune menuisier de 17 ans a attaqué avec un tournevis un garde de sécurité de l'ambassade d'Israël à Amman. Et plus loin dans cet article, on peut lire qu'Israël et la Jordanie n'ont pas intérêt à ce que cette crise se développe puisqu'ils collaborent dans la lutte contre Daesh et développent de nombreux projets en commun dans les domaines de l'eau et de l'énergie, entre autres. Alors, on peut sérieusement douter de cette phrase, justement, Israël luttant contre Daesh. Plusieurs informations ont montré qu'Israël soutenait Daesh lorsque cela lui était favorable, puisqu'Israël surtout s'oppose à Bachar el-Assad en Syrie. Donc cette nouvelle dans Libération présente certains problèmes. Retenons surtout le titre « Israël s'enfonce dans la crise des portiques » sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. En Méditerranée maintenant, une information qui nous provient de Bastamag, un navire anti-réfugié affrété par l'extrême droite est suspecté d'embarquer un équipage armé. C'est signé par le journaliste Yvan Duroy. Des militants d'extrême droite de plusieurs pays européens ont lancé leur opération Defend Europe en Méditerranée. Grâce notamment à des campagnes de financement participatif, ils ont réussi à affréter un bateau qui a appareillé de Djibouti début juillet vers le canal de Suez, puis la Méditerranée. Leur objectif est d'empêcher les migrants qui tentent la périlleuse traversée entre l'Afrique et l'Europe en interceptant les esquifs pour les ramener sur les côtes africaines et en entravant le travail des organisations de solidarité qui mènent des opérations de sauvetage ou en alertant les gardes-côtes libyens dont les méthodes d'intervention sont très critiquées. Ces militants d'extrême droite et l'équipage qui les accompagne sont-ils armés? Demande cet article. Selon l'organisation britannique Hope Not Hate, l'espoir et non la haine, une organisation qui a enquêté sur les coulisses de cette initiative d'extrême droite, la probabilité est grande de trouver à bord des armes semi-automatiques. Hope Not Hate est une organisation antiraciste fondée en 2004. Elle est basée à Londres, précise cet article. Donc, si vous voulez poursuivre, approfondir dans cette information communiquée par le portail bastamag.net, c'est intitulé « Un navire anti-réfugié affrété par l'extrême droite, suspecté d'embarquer un équipage armé ». On reste dans la région du Moyen-Orient. 400 000 Yéménites ont contracté le choléra. L'épidémie ralentit, c'est ce que nous indique l'agence Reuters. La barre des 400 000 cas de choléra était en passe d'être atteinte mardi au Yémen. Mais certains signes donnent à penser que l'épidémie, qui a commencé voici 3 mois, marque le pas, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le net recul enregistré au cours du mois est coulé pour ce qui est du nombre de personnes mourant du choléra chaque jour, d'une trentaine à moins de 10 maintenant, laisse penser que la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a consisté à créer un réseau de points de réhydratation pour soigner rapidement les malades, était payante. Selon le dernier rapport de situation de l'OMS, 396 086 personnes avaient contracté le choléra à la date du 24 juillet, soit 2% de la population du Yémen. Au total, 1869 décès ont été comptabilisés. Rappelons que le Yémen est le théâtre d'une guerre. C'est une guerre qui est menée en partie par l'Arabie Saoudite avec l'appui des États-Unis, de l'OTAN et par voie de conséquence du Canada. C'est une guerre qui s'est traduite par de nombreuses infractions aux droits humains. Et le choléra est l'un des symptômes de cette campagne terrible menée militairement par l'Arabie Saoudite. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters. On va faire un petit passage dans le journal Le Monde. Une blogueuse vietnamienne condamnée à 9 ans de prison. L'opposante Tran Thi Nga a été déclarée coupable de propagande anti-étatique au terme d'un procès d'un seul jour. Le verdict intervient 1 mois après la condamnation d'une autre blogueuse. La justice vietnamienne a condamné mardi 25 juillet une opposante à 9 ans de prison pour diffusion de propagande contre l'État. Tran Thi Nga, blogueuse de 40 ans, a été déclarée coupable au terme d'un procès d'un seul jour dans la province septentrionale de Hanam, 6 mois après avoir été arrêté pour avoir posté des contenus dits offensants sur Internet, a précisé son avocat, dénonçant un verdict inique. Donc les droits humains qui ne progressent pas beaucoup au Vietnam, vous aurez ça dans le journal Le Monde. On va rester en Asie, une nouvelle aperçue pour vous dans le portail de RFI. Frontière himalayenne, l'Inde et la Chine en pleine crise diplomatique. Depuis plus d'un mois, les soldats des deux armées les plus puissantes d'Asie, l'Inde et la Chine, se font dangereusement face sur un plateau himalayen. Et chaque camp accuse l'autre d'avoir violé les accords frontaliers. Les deux pays ont de nombreux désaccords concernant ces tracés de frontières, mais ce face-à-face militaire est le plus sérieux des dernières années. Ce qui a provoqué cette guerre froide entre la Chine et l'Inde, précise cet article de RFI, c'est la construction d'une route goudronnée par Pékin sur le plateau de Doklam, dans les hauteurs de l'Himalaya. Le plateau de Doklam se trouve dans la vallée tibétaine de Chumbi, située sur le flanc ouest du Bhoutan et à l'est de l'État indien du Sikkim. Ce plateau est contesté par la Chine et le Bhoutan est situé à quelques kilomètres des frontières indiennes. Le Bhoutan dénonce cette intrusion, mais n'a pas les possibilités de s'y opposer et fait appel à New Delhi, son proche allié régional. L'armée indienne entre donc au Bhoutan pour interrompre l'avancée des travaux. Pékin rugit et menace. New Delhi se cambre et résiste, mais aucun des deux rivaux ne cède. Donc voilà le résumé de ce qui a mené à cette forte tension entre la Chine et l'Inde. C'est une escalade qui inquiète dans cette région du monde. Vous aurez le compte-rendu de RFI à l'adresse rfi.fr. Je rappelle le titre, Frontières himalayennes, l'Inde et la Chine en pleine crise diplomatique. Et à propos de l'Inde, justement, cette fois dans le fil de l'agence Reuters, Ram Nath Kovind a prêté serment mardi en tant que 14e président de la République indienne, devenant le second membre de la caste dite des intouchables à occuper cette fonction. Candidat issu de la formation nationaliste hindoue du premier ministre Narendra Modi, Ram Nath Kovind est un ancien avocat de 71 ans. Il a été élu à ce poste essentiellement honorifique par un collège de grands électeurs. Donc la fonction de président en Inde est essentiellement honorifique, un peu comme celle de gouverneur général. Néanmoins, il est important de mentionner que la personne qui accède à ce poste ici, dans le cas présent, est un intouchable. C'est une avancée pour ce groupe indien et vous trouverez l'information dans le fil de Reuters. Je rappelle le titre, un intouchable devient président en Inde. Et nous allons retourner en Europe pour refermer cette revue de presse internationale. Pologne, malgré le veto présidentiel, le gouvernement maintient sa réforme. C'est dans le portail de RFI. En Pologne, le conflit au sujet des réformes controversées de la justice voulue par le pouvoir conservateur a pris une nouvelle tournure avec les vetos opposés par le président Andrzej Duda. Une grande surprise puisque ce dernier est issu du même parti que les députés actuellement au pouvoir. Mais la première ministre polonaise Beata Szydło a annoncé lundi soir à la télévision que son gouvernement comptait maintenir sa réforme de la justice. Lundi soir après 20h, s'est jouée à la télévision une scène assez incroyable, à savoir deux allocutions sur deux chaînes différentes au même moment, rapporte notre correspondant à Varsovie, Damien Simonard. D'un côté, le président Andrzej Duda, qui réaffirme qu'il met son veto à deux des trois réformes votées par le PIS. De l'autre côté, la première ministre Beata Szydło, qui martèle que le gouvernement ne cédera pas aux pressions de la rue et de l'étranger. Nous avions abordé la dérive autocratique, la dérive dictatoriale qui se manifeste en Pologne il y a de cela quelques jours dans un débrief de la semaine dernière. Eh bien, cette nouvelle est finalement la suite de ce feuilleton. La Pologne qui va sans doute basculer un peu plus vers le gouvernement autoritaire. Le président Andrzej Duda a tenté d'opposer son veto. On verra s'il a du succès. C'est une dérive qui est condamnée, on le disait précédemment, par la Commission européenne, puisque la Pologne est membre de l'UE, l'Union européenne. Vraisemblablement, cette nouvelle va revenir à l'avant-plan de l'actualité européenne dans de prochaines éditions du débrief. Pour le moment, on referme cette revue de presse internationale. Nous allons passer dans quelques instants aux nouvelles canadiennes. Merci d'être à l'écoute. Si vous venez d'allumer votre poste ou de vous rendre à l'adresse cilsfm.ca, vous êtes dans l'émission Le Débrief. L'info se poursuit dans cette édition du 25 juillet et du 26 juillet, nous allons passer aux nouvelles canadiennes. Tout de suite, deux articles de Marie Vastel aperçus dans le journal Le Devoir. Nous allons commencer avec cet article de Marie Vastel intitulé « Le crime reste stable au pays, baisse des infractions liées à la possession et à la distribution de marijuana ». Justin Trudeau a beau marteler depuis 2 ans que la marijuana reste illégale tant que son gouvernement ne l'aura pas légalisée, les infractions liées au cannabis déclarées par la police continuent néanmoins de se faire moins nombreuses, écrit Marie Vastel. Quant au taux de criminalité au pays, il fait du surplace, confirme Statistique Canada. Le rapport annuel de l'Agence Statistique Canada sur les crimes déclarés par la police révèle que, de manière générale, le nombre d'infractions au code criminel est resté stable à près de 1,9 million de cas, puisque la police n'a répertorié en 2016 que 27 700 infractions de plus qu'en 2015. La gravité des crimes commis, poursuit la journaliste, n'a pas beaucoup changé, elle non plus. L'indice de gravité de la criminalité, l'IGC, ayant augmenté de seulement 1% l'an dernier. En fait, poursuit-elle, les moyennes de la moitié des crimes violents ont reculé de 2015 à 2016. Mais d'autres ont néanmoins augmenté, comme les taux d'infractions sexuelles contre les enfants, plus 30%, les infractions autres que des homicides ayant causé la mort, plus 14%, les infractions liées à la nouvelle loi sur la prostitution, plus 11%, les agressions sexuelles graves, plus 6%, et finalement la séquestration ou l'enlèvement, plus 4%. Les crimes les plus violents, les homicides, ont en revanche diminué de 1%. La police en a déclaré 2 de plus en 2016 qu'en 2015, mais en raison de la croissance de la population, le taux d'homicide par 100 000 habitants a reculé. Donc voilà le compte-rendu de Marie Vastel concernant la situation du crime au pays. Je rappelle le titre de l'article « Le crime reste stable au Canada ». On va se tourner vers le fil de la presse canadienne à présent. Denis Coderre rejette les critiques à l'endroit de la course de Formule E. Denis Coderre, vous le savez, c'est le maire de Montréal. De retour de vacances, le maire de Montréal, Denis Coderre, rejette en bloc l'ensemble des critiques à l'endroit du Grand Prix de Formule E, la course de voitures électriques qui mobilise et paralyse un pan du centre-ville. De retour de vacances, le maire de Montréal, Denis Coderre, rejette en bloc l'ensemble des critiques à l'endroit du Grand Prix de Formule E, la course de voitures électriques qui mobilise et paralyse un pan du centre-ville de Montréal. Le maire Coderre se dit toujours convaincu que l'événement sera un succès et que ce n'est qu'une minorité qui manifeste son mécontentement. Le maire fait valoir que les quelques 11 040 résidents et les 25 commerçants enclavés par le circuit ont été rencontrés depuis le mois de février et que la vaste majorité de ces gens-là sont très heureux, selon le maire toujours. C'est un sujet qui provoque beaucoup de discussions actuellement à Montréal, ce projet de course de formule électrique, une course de voiture électrique à Montréal, en plein centre-ville. Vous aurez ça dans le fil de la presse canadienne. Toujours dans le fil de la presse canadienne, 47 nouveaux avis dans les communautés autochtones depuis 2016, c'est le titre de cet article. Alors qu'Ottawa s'est engagé à rendre potable l'eau de l'ensemble des réseaux d'aqueducs situés dans les communautés autochtones du pays d'ici 2021, pas moins de 47 nouveaux avis sur la qualité de l'eau potable ont été émis depuis 2016 et sont toujours en vigueur, dont 27 depuis le début de l'année, révèlent des données obtenues par la presse canadienne. Une situation qui fait dire à plusieurs observateurs que le gouvernement de Justin Trudeau risque bien de ne pas atteindre sa cible de lever tous les avis à long terme visant des systèmes financés par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada d'ici 5 ans, malgré des investissements de 1,8 milliards de dollars au cours du quinquennat à venir. L'eau potable qui demeure un sujet vraiment d'actualité dans les communautés autochtones à travers le pays. Cette nouvelle paraît sous la plume de Dominique Degré dans la presse canadienne. Je rappelle le titre, Eau potable, 47 nouveaux avis dans les communautés autochtones depuis 2016. La monnaie royale canadienne s'excuse pour une pièce sur la bataille de Dieppe. C'est dans le fil de la presse canadienne également. La monnaie royale canadienne s'excuse pour une pièce de collection identifiée incorrectement, selon un groupe d'anciens combattants, rappelant l'attaque alliée sur le port de Dieppe occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement appelée l'opération Jubilee, le raid sur Dieppe est appelé la bataille de Dieppe erronément sur une pièce en argent frappée pour le 75e anniversaire de cet événement. Keith Brewer de l'Association des anciens combattants militaires de Dieppe soutient que la pièce devrait identifier l'attaque sur la côte nord de la France comme un raid et non comme une bataille. Un porte-parole de la monnaie royale canadienne a affirmé que la Société d'État avait consulté la Direction du patrimoine et de l'histoire du ministère de la Défense avant de concevoir la pièce commémorative. Toutefois, Alex Reeves a déclaré que la monnaie royale canadienne comprenait les inquiétudes exprimées par le groupe d'anciens combattants au Nouveau-Brunswick et s'excusait si l'inscription sur la pièce avait choqué des gens. Alors, ça peut peut-être vous sembler un point de détail, mais ça ne l'est pas pour certains anciens combattants, particulièrement ceux qui ont participé à cette opération de Dieppe durant la Seconde Guerre mondiale. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne. La monnaie royale canadienne s'excuse pour une pièce sur la bataille de Dieppe. Et pour terminer cette revue de presse nationale, un article intitulé « Je suis heureux d'avoir sauvé la vie d'Omar Kader ». C'est dans le journal La Presse. Pendant des années, un ancien combattant américain décoré a eu des problèmes de conscience, se demandant s'il avait fait la bonne chose en sauvant la vie d'Omar Kader, perçu par plusieurs comme un terroriste ayant profité de ses crimes. Aujourd'hui, observant de loin le tollé soulevé par le versement de 10,5 millions de dollars à Omar Kader par le gouvernement canadien, Donnie Boumaglag souhaite raconter sa version de l'histoire et donner son opinion, même si celle-ci risque de ne pas plaire à de nombreux Canadiens et même à certains de ses frères d'armes. L'homme de 36 ans de Lompoc, en Californie, a passé des années à tenter d'accepter son ancienne vie de technicien médical d'élite, appuyant les forces spéciales américaines pendant 3 missions en Afghanistan et en Irak. Il a été hanté par des flashbacks, se remémorant constamment ce moment de l'été 2002 où il a passé des heures à l'arrière d'un hélicoptère à tenter de sauver la vie d'Omar Kader, alors âgé de seulement 15 ans et à un cheveu de la mort. C'est une vie humaine, a-t-il déclaré. C'est la guerre. C'est une chose que la majorité des gens ne peuvent imaginer et ils veulent rapidement donner leur opinion simplement parce que cela leur permet de se sentir bien avec eux-mêmes, a-t-il raconté. Mais l'histoire va plus loin que ses lignes principales. Alors, en substance, cet ancien technicien médical au service de l'armée américaine estime que Omar Kader était un enfant soldat à l'époque. Et il relate cette journée fatidique de 2002 lorsqu'il lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, cet ancien technicien médical est en Californie. Il continue d'évoluer dans le secteur médical, mais il s'est éloigné de l'armée. Il a quitté l'armée en 2003. C'est un beau portrait. Vous le trouverez dans le journal La Presse. C'est intitulé « Je suis heureux d'avoir sauvé la vie d'Omar Kader, l'ancien enfant soldat ». Et nous allons terminer sur une nouvelle sportive. Kylie Massé s'offre l'or et un record du monde. La nageuse canadienne Kylie Massé a remporté la médaille d'or aux 100 mètres d'eau en établissant un record du monde en 58,10 secondes au championnat du monde aquatique. Massé a amélioré le précédent record en grand bassin de 58,12 secondes établi par la Britannique Gemma Spurfort aux Mondiaux de Rome en 2009. Alors voilà, un record du monde battu par la nageuse Kylie Massé. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne, section sport. Kylie Massé s'offre l'or et un record du monde. C'est tout pour cette revue de presse canadienne. Dans un instant, la rubrique francophone. Merci de rester à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale. À tout de suite. rubrique francophone pour les 25 et 26 juillet. Merci d'être à l'écoute du débrief. Nous allons donc nous porter en France d'abord pour parler de francophonie. Qui est responsable de la francophonie dans le gouvernement français actuellement suite à l'élection en mai d'Emmanuel Macron et à la nomination du Premier ministre Édouard Philippe? On ne savait toujours pas à la fin du mois de juin, rappelez-vous, qui était responsable de la francophonie, du dossier francophone dans ce nouveau gouvernement. Il semble qu'on ait désormais une réponse et c'est grâce à la tenue des Jeux de la francophonie. Vous savez, ces Jeux qui se tiennent actuellement à Abidjan, en Afrique, en Côte d'Ivoire, jeu de la francophonie qui mêle sport et art, expression artistique et différentes disciplines sportives. TV5 Monde a pu interviewer le responsable de la francophonie au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. On a enfin un nom. Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoine. Il a fait le voyage. Il s'est rendu au Jeu de la francophonie 2017 à Abidjan et il a accordé à TV5 Monde une interview de quelques minutes qui est fort intéressante et qui fournit des engagements du pays pour la francophonie internationale. Donc il y a de quoi se réjouir dans cette sortie du gouvernement Édouard Philippe et cette présence au Jeu de la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire. Donc Jean-Baptiste Lemoine, je vous cite quelques-uns des propos tenus lors de cette interview accordée à TV5 Monde. Au-delà de la langue, la francophonie, c'est la capacité à se projeter dans une dimension économique, a-t-il dit. Nous avons énormément de passerelles à construire avec les pays de l'espace francophone. La francophonie doit être un espace de mobilité, d'espoir. Nos jeunesses aspirent à une meilleure vie. La francophonie, c'est la jeunesse, les sociétés civiles. C'est ce dialogue singulier entre les acteurs associatifs et il faut aller au-delà du cadre institutionnel. Voilà quelques éléments du verbatim du secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est lui qui a la responsabilité de la francophonie au sein du gouvernement d'Édouard Philippe en France et il était à Abidjan ces jours-ci. Vous trouverez ça sous l'intitulé « Jeux de la francophonie, le fait francophone n'est pas l'apanage d'une élite » sur le portail de TV5 Monde à l'adresse information.tv5monde.com. Donc voilà pour la rubrique francophone pour ces 25 et 26 juillet. Merci de rester à l'écoute du débrief. L'information se poursuit dans un instant. J'aurai la chance de m'entretenir justement à propos de francophonie et du 150e anniversaire du Canada, d'un projet qui s'appelle 150 regards. C'est un projet mené par deux Sherbrookois, Guylaine Laronne et Stéphane Lemire. Ils traversent le pays d'est en ouest à la recherche de gens engagés dans leur communauté, des gens qui sont artistes, artisans, pédagogues, impliqués de différentes manières dans leur communauté et toutes leurs découvertes se distribuent en profil vidéo sur le portail 150regards.ca. J'aurai la chance de m'entretenir avec eux. Ils étaient de passage à Victoria cette semaine. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants à l'antenne de CILS-FM. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CILS-FM, votre fréquence communautaire francophone dans la grande région de Victoria. Merci de votre fidélité. L'info se poursuit dans cette édition du 25 juillet. Nous accueillons en studio deux personnes qui ont un projet qui s'inscrit dans les célébrations du 150e anniversaire du Canada, célébrations qui ont culminé le 1er juillet, mais qui quand même se poursuivent au fil de l'année 2017. J'accueille Guylaine Laronde et Stéphane Lemire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Votre projet s'appelle 150 regards. De quoi s'agit-il?
Par ce projet, nous voulions saisir l'occasion de présenter le profil de différents Canadiens, des Canadiens inspirés et passionnants qui nous parlent de leur vie au Canada, dans différentes régions.
D'accord. Donc, vous recueillez ces témoignages de quelle façon?
Nous recueillons ces témoignages sous forme de courtes vidéos que nous tournons lors de la rencontre de ces personnes. Ce sont de courtes vidéos d'environ 2 minutes et les sujets que nous abordons sont vraiment variés. Ben, la vie des Canadiens que nous abordons, des Canadiens qui font toutes sortes de métiers tels que... Par exemple, ça peut être des artistes, ça peut être des artisans, des gens qui nous parlent de leur passion qui est pas liée à leur métier, mais à leur loisir aussi. Ça peut être des sportifs, ça peut être, on a fait par exemple, Stéphane, aurais-tu des exemples? Aide-moi.
Ben, en fait, on rencontre des gens de toute origine pour dire aussi, ce serait des monsieur et madame tout le monde qui nous racontent leur histoire, qui nous racontent leur origine, leur passion surtout. Alors, ils nous racontent ce qui les branche, ce qui les fait vivre. Ils nous racontent la raison pour laquelle ils sont installés, comme par exemple ici à Victoria. On rencontre des francophones qui viennent d'un peu partout. Alors, ils nous racontent tout simplement leur histoire. Alors, ça peut être fascinant, en parcourant le pays comme on fait, de rencontrer ces gens-là à qui on donne la parole.
Je peux vous donner, à titre d'exemple, on a interviewé des écrivaines qui sont allées des Québécoises qui sont allées au Nunavik pour s'inspirer, pour écrire une intrigue qui se déroule au Nunavik. On a rencontré un professeur de kite ski, un travailleur social dans un centre pour les gens en difficulté à Terre-Neuve. On a rencontré des producteurs de miel, des agriculteurs biologiques et Stéphane, aide-moi.
Aussi des musiciens, on a des conteurs, on a des agriculteurs, des collectionneurs. C'est vraiment varié.
Ouais. Et on retrouve ça où? À quel endroit peut-on se rendre sur le web pour visionner ces témoignages?
Vous vous rendez sur notre site dont l'adresse est 150regards.ca, 150 regards pour 150 visions de Canadiens, tout simplement.
Est-ce que le projet est terminé? Vous avez vos 150 regards?
Non, le projet a débuté quand même assez tard. Il a débuté, au début juin, puis on va le poursuivre jusqu'en décembre. Donc, actuellement, on a déjà beaucoup de vidéos qu'on n'a pas encore mis en ligne parce qu'au fur et à mesure qu'on les tourne, faut faire le montage. Puis en même temps qu'on voyage, des fois c'est difficile, faut revenir. Puis là, on fait le montage, on les met en ligne tranquillement à raison de quelques reportages par semaine.
C'est pas terminé, mais on peut déjà se rendre sur le site pour consulter les différents témoignages que vous avez déjà amassés.
Oui, absolument. Il y a des témoignages en français, en anglais, de différentes régions qu'on a visitées et ça se poursuit jusqu'en décembre.
Comment l'idée a-t-elle germé? Ça provient d'où?
C'est venu de l'idée du 150e anniversaire de la Confédération. On s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose. On avait déjà, ensemble, Guylaine et moi, fait des projets en environnement. On a publié 3 livres et on se disait, bon, il faudrait faire quelque chose qui pourrait nous faire rencontrer les gens, qui pourrait nous faire voyager aussi, parce qu'on aime voyager puis on aime rencontrer les gens. Fait qu'on s'est dit, c'est le temps de proposer quelque chose. Notre projet a été accepté. Alors,
par Patrimoine canadien, j'imagine?
Oui, c'est Patrimoine Canada qui gère ça, finalement. Et puis, ça nous donne l'occasion de... évidemment, moi, je suis photographe, c'est mon métier, alors ça me donne l'occasion aussi de faire de la photo. Et puis, de découvrir notre pays aussi. On a voyagé quand même pas mal partout, mais ça nous donne l'occasion de voir ce que c'est notre pays. Puis, bon, c'est grand, c'est diversifié, et puis on a l'impression que, finalement, c'est plusieurs pays. On arrive ici... l'autre bord des Rocheuses, en Colombie-Britannique, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est toujours le Canada, mais bon, c'est un autre monde. Un peu comme ce qu'on a vécu aussi à Terre-Neuve, on avait l'impression vraiment d'être dans un autre monde aussi.
Il y a plusieurs Canada, donc.
Il y a plusieurs Canada, ce qu'on peut
dire.
Il y
a plusieurs interprétations aussi.
C'est le point commun qu'on pourrait dire, ce qu'on a découvert à date, c'est que c'est un pays qui est accueillant. On se rend compte que, bon, on a fait les Maritimes. On dit souvent que le Québec est accueillant. Les Européens, les Français vont dire « Vous êtes tellement accueillants ici que on peut plus repartir. » Mais on s'est rendu compte qu'ailleurs aussi, c'est très accueillant. On a fait la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, il y a à peine 2 semaines. Puis, oui, on était bien accueillis. On voulait plus repartir de là-bas. Puis on se rend compte qu'ici aussi, en Colombie-Britannique, Victoria, c'est un peu la même chose aussi. Les gens sont accueillants, puis ben, on rencontre des francophones, c'est intéressant aussi.
Qui rencontrez-vous dans la région de Victoria et de qui ferez-vous le portrait?
Guylaine, tu pourrais nous parler de qui on a rencontré ce matin, entre autres une personne vraiment intéressante qui a vraiment du bagou.
Oui, notre première rencontre, ça a été une conteuse qui s'appelle Marie-Hélène Bourret, qui travaille avec vous d'ailleurs. Et c'est une personne vraiment inspirée, inspirante, qui a beaucoup de connaissances au niveau de l'histoire, justement, du pays puis de la province. Donc, on est vraiment enchantés de cette première rencontre-là. On a d'autres rencontres aussi de prévues avec des artistes autochtones. Et au fur et à mesure qu'on voyage aussi, on recrute les gens... on improvise, on the spot. C'est comme ça qu'on a trouvé la plupart de nos personnes. On fait des recherches parallèlement aussi, mais on rencontre des gens comme ça, puis c'est vraiment bien. Fait qu'on a déjà quelques entrevues de prévues ici, mais au fur et à mesure de nos déplacements, on va y aller selon l'inspiration.
Est-ce que c'est un site qui est à part égale francophone et anglophone, ou c'est surtout une initiative francophone canadienne?
Alors, on dirait que c'est les deux, parce que comme on rencontre autant d'anglophones que de francophones, on essaie de partager ça, comment je pourrais dire, un peu à part égale. Mais c'est un site bilingue, c'est qu'on a une partie en anglais puis une partie en français. Et c'est facile de naviguer sur le site en allant dans le menu. Je pourrais dire que actuellement, il y a peut-être un petit peu plus d'entrevues en anglais, parce que, bon, ça a donné comme ça à Terre-Neuve, puis dans les Maritimes, on a rencontré plus d'anglophones, mais ça va finir par s'équilibrer avec ce qui reste à faire dans l'Ontario francophone, puis au Québec, avec les entrevues qui nous restent à faire.
Une des entrevues qu'on a fait avant notre départ, c'est une dame de 97 ans qu'on a interviewée, qui est une anglophone, mais qui a marié un francophone. Puis, on lui a posé des questions sur les deux solitudes, puis... Mm-hmm. Elle a 97 ans et vraiment, là, elle est là à 100%. Puis, on lui a demandé... Bien, l'entrevue qu'on a mise sur le site ne concerne pas les deux solitudes, mais on a stocké comme d'autres entrevues avec elle. On va les publier plus tard. Mais elle nous a raconté sa vision des deux solitudes à 97 ans. Puis, c'était très clair dans sa tête. Puis, c'était très poétique la façon dont elle nous l'a expliqué. Puis, on va publier ça un peu plus tard. Mais on fait vraiment des rencontres très, très inspirantes. Puis cette dame-là, là, de 97 ans, ça a été un de nos coups de cœur. C'était une chanteuse, une soprano, qui a eu une carrière musicale, puis vraiment très intéressante, très inspirante.
Combien de temps durent ces rencontres, ces interviews pour le l'internaute qui se déplace sur le site? Est-ce que toutes les interviews ont la même durée?
Je dirais que c'est entre 1 minute et 2 minutes. Alors, c'est des courtes capsules
quand
vidéo.
Même. D'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment, on a une première impression. On retire une impression de la personne et de ce qu'elle fait. Et le format web, finalement, vous avez choisi quelque chose d'un peu instantané.
Ben, on s'est mis au goût du jour, hein. On pensait Facebook. Dépasser 30 secondes, déjà, il faut que ça soit vraiment pertinent pour garder l'auditoire. Alors, c'est pour ça qu'on s'est donné comme laps de temps minimum d'une minute, puis un maximum de deux minutes. On dépasse quelques fois. Je pense que notre dame de 97 ans a dépassé, oui, parce qu'elle, oui, a tellement de bagou elle aussi. Mais c'est à peu près ça. Ça tourne autour de ça.
On constate aussi l'intérêt pour la photo. Je suis en train de parcourir le site actuellement et je remarque la qualité exceptionnelle des photos. Vous avez donc ajouté cette touche esthétique au projet, c'est fort intéressant. Vous disiez que vous aviez écrit tous les deux des ouvrages à thématique environnementale. On peut peut-être terminer là-dessus. Est-ce qu'on peut les citer pour les auditeurs?
Oui, ben en fait, c'était comme une trilogie. Le premier volume s'appelait « À cours d'eau, une réflexion sur l'eau ». Le deuxième, « Mots de terre, une pensée pour la terre ». Et le troisième, « Arborescence ».
L'arbre en mots, en images et en musique.
C'est ça, qu'il y avait un volet musical, ce dernier livre-là. Mmh. Donc, c'est trois livres qu'on a fait, Stéphane a fait les photos, et c'était, il y avait des textes poétiques écrits par des jeunes sur ces différentes thématiques-là. Et les trois livres, il nous en reste plus vraiment à distribuer.
Sont épuisés.
Ouais, fait qu'on n'en fait pas vraiment la promotion d'une certaine façon, là. Mais c'est ça, c'était des livres pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement, mmh, son importance.
Une thématique canadienne très importante, l'eau. Il y a vraiment une abondance ici, une richesse en eau qui est exceptionnelle. Merci beaucoup d'être passé à la station pour nous parler de ce projet intitulé 150 regards, que l'on retrouve à l'adresse 150regards.ca. Je rappelle les noms des auteurs de ce projet. Il s'agit de Guylaine Laronde et Stéphane Lemire. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Encore merci à nos invités du jour, Guylaine Laronde et Stéphane Lemire du projet 150regards.ca. Alexis Gagnon au micro. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
CILS FM 107,9 à Victoria.
Ici Kevin Simonard, votre animateur de l'émission Ce soir en jazz. Je vous accompagnerai cet été tous les vendredis soirs à 22h sur les ondes de CILS FM. Un rendez-vous consacré au jazz canadien.
Victor. Victoriens et Victoriennes, vous écoutez CILS au 107.9 FM.
Ils font des pesticides, des fongicides aux fruits. que des concours pour rêver du sud l'hiver. Yanana, oh oh, que leur monde est beau. Yanana, oh oh, que leur monde est beau. Un jour on se demandera, mais au fond qui sont-ils? Dans le miroir on verra notre reflet fragile. Possible qu'on s'avoue alors qu'il c'est nous. Possible qu'on s'avoue alors qu'il c'est nous. Nous reprendrons en main les outils de l'espoir. Nous ferons des jardins jusqu'au bout des trottoirs. Fini la contagion qu'on a.
Dieu, je vais m'embarquer, charmante angélique, sur ces eaux j'irai voguer jusqu'à l'Amérique. Dans 6 mois je reviendrai après le voyage, alors je t'épouserai. Si j'ai l'avantage,
ingrat, tu t'éloignes de moi. Où sont tes promesses que tu faisais autrefois à ta chère maîtresse? Tu m'avais toujours juré un amour extrême. Jusqu'au tombeau de m'aimer autant que toi-même.
J'appréhende rien qu'à ta reine, sur ces eaux je vole. Le ciel me conduira bien. Aussi la boussole. Et si je quitte ce port, c'est avec tristesse. Mais hélas, quelle triste sort, charmante maîtresse.
Quand tu seras éloigné de dans l'Amérique, tu vas bien vite oublier ta chère angélique. Me délaissera pour une autre belle. Ton serment tu fausseras, me quittant pour elle.
Je
crains rien jusqu'à la mort, tu ne seras chère. Nulle belle en aucun port ne pourra me plaire. Tiens, voilà cet anneau d'or, et qu'il soit le gage de l'amour jusqu'à la mort auquel je m'engage.
Avec la tristesse au cœur, oui, je te l'assure, je verserai mille pleurs sur ton aventure. L'équipage périra, tu feras naufrage, ton bateau se brisera, battu par l'orage.
Adieu mes amis, adieu, il nous faut partir, il nous faut quitter ce lieu avec grand empire. Le vent qui nous est du nord est bien agréable, il nous faut quitter ce port, c'est bien regrettable.
CILSFM, la seule radio communautaire en français de la côte ouest canadienne.
Bonjour, je m'appelle Olivia et vous écoutez CILSFM à Victoria.
Allô la planète avec Chapka.
Et c'est reparti, bonjour tout le monde, émission numéro 161 d'Allô la planète, ok, oui. Où que vous soyez en ce bas monde, bien sûr, l'émission est là pour vous. C'est vous qui discutez avec nous, qui nous le racontez, le monde, si tout va bien. Aujourd'hui, on rencontrera Raphaël, qui prévoit un tour du monde de 2 ans sur son petit bateau. Steven et Pia arrivent d'un tour du monde. Et le camarade Hervé, où est-il Hervé?
Allô la planète, avec Eric Lange.
Mais oui, c'est à la Martinique, bien sûr. Salut Hervé, bienvenue.
Salut Eric, tu vas bien?
Mais oui, comment va la Martinique?
Plutôt bien. Ouais. Il pleut toujours bien, ouais.
Il pleut, là? Ah oui, c'est la saison?
Non, on est encore sur le carême, là. Il fait encore bien bio et bien sec.
Bon, et rappelle-nous ce que tu fais là-bas et tout ça, depuis combien de temps dans Martinique?
Là, ça va faire une petite année qu'on est arrivé ici. On est arrivé pour le boulot de mon épouse. Et voilà, on a voulu laisser la métropole derrière nous et on est venu, on cherche un endroit sous les tropiques. Et puis bon, c'est la Martinique qui nous a ouvert les bras. Donc on s'est installé ici.
Ah oui, c'est vrai que t'es fan d'expat.
Voilà.
Non mais il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait maintenant des maris d'expat.
Eh ben oui, c'est des pourquoi pas.
Elle travaille dans quoi madame?
Elle est infirmière.
Infirmière, ah ouais, ça c'est des jobs que t'as partout ça.
Eh ouais. Pour voyager, je crois qu'il y a rien de mieux.
Ah bah d'expérience de tout ciel ou la planète, il y a infirmière, kiné. Les kinés, ouais. Ils bossent partout. Boulanger, ça c'est bien, tu travailles partout. Et cuisinier, voilà les 4 jobs qui vous permettent d'aller partout, monsieur, dame. Et toi, tu fais quoi?
Moi, je suis ingénieur informatique. Ah. Mais pour, moi, j'ai gardé ma place en fait en métropole. Je travaille à distance avec la métropole. Merci Internet.
Oh bah elle est belle, c'est parfait.
Ouais, la vie est pas mal, ouais.
Et t'as... non mais c'est génial. Et donc toi, tu bosses à la maison, tout ça et...
Exactement.
Et elle est bien la maison, tu bosses. Est-ce que tu vois la mer et le lagon bleu de ta fenêtre quand tu travailles?